Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Les 12, 13 et 14 mai prochains, les chrétiens de tous les diocèses de la région sont attendus à Toulouse pour le printemps de la diaconie. 3 jours pour se connaître, débattre, prier, témoigner, célébrer dans un esprit festif. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et c'est une émission en 2 temps que nous vous proposons. Dans un premier temps, une émission où on vous invitera à réfléchir sur la place à laisser aux plus pauvres. Un événement comme celui-ci. Et dans un deuxième temps, nous détaillerons avec Sébastien Combre, coordinateur provincial du printemps de la diaconie, le programme précis de cet événement qui a lieu, je le rappelle, le 12, 13 et 14 mai prochain. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir beaucoup de personnes aujourd'hui autour du plateau de Vivante Église. Sébastien Combre, coordinateur du printemps de la diaconie et délégué épiscopal pour la diaconie au sein du diocèse de Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Juste à côté de vous, sœur Anne, vous êtes sœur de la Bonne Nouvelle et animatrice Place et Parole des Pauvres. Bonjour à vous.
Bonjour.
En face de vous, Paulette Schmidt, vous êtes militante ATD Quart-Monde. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et pour être totalement complet, Jean-Luc Donadieu, vous êtes chargé de mission de la pastorale des personnes handicapées au sein du diocèse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les 4 d'avoir accepté mon invitation. Sébastien Combre, je me tourne vers vous pour débuter cette émission, le printemps de la diaconie. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un événement qui a été voulu par les évêques de la province de Toulouse. Donc, c'est un événement provincial qui fait suite à Diaconia qui a eu lieu en 2013, l'événement qu'on appelait Diaconia 2013. Et donc, c'est pour fêter les 10 ans de Diaconia 2013. Alors, beaucoup y sont allés, mais beaucoup n'y sont pas allés. Hein. On était 17 000
à Lourdes.
Et l'idée, c'était de faire un événement qui mettait à l'honneur les différentes initiatives autour de la solidarité, de la fraternité, de l'option préférentielle pour les pauvres, autour de la diaconie, en fait. Et principalement en mettant à l'honneur ceux qui, normalement, étaient du côté de ce qu'on aidait, de ce qu'on... à qui on apportait nourriture, voilà. Souvent, on définit les pauvres dans leur creux, c'est-à-dire tout ce qui leur manque. Et pour le coup, en face, il y a plein de gens qui donnent pour combler les trous. Mais là, Diaconia, c'était l'inverse. C'est-à-dire, les pauvres, ils n'étaient pas dans leur creux, mais plutôt dans tout ce qu'ils avaient à dire, tout ce qu'ils avaient à nous apprendre, tout ce qu'ils avaient à nous enseigner. Et quelque part, Diaconia 2013 a repris au sérieux une phrase de l'Évangile, « Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé au tout petit. » On peut trouver ça dans Matthieu 11, au verset 25.
Sœur Anne, pour les pauvres, c'est important de se sentir mise à l'honneur, d'inverser un petit peu la tendance.
Oui, ça c'est sûr, c'est certain. Parce que, comme disait Sébastien, c'est vrai que Dieu se révèle à eux d'une façon particulière et que si on se met à leur écoute, ben, on va apprendre des choses, on va découvrir peut-être des réalités, des choses de que Dieu veut nous révéler et qu'on ne saurait pas si on ne les écoutait pas. Mmh. Et donc, si on veut aussi qu'un événement inclue vraiment tout le monde et que personne ne soit exclu, ne se sente en dehors, il faut partir d'eux. Sinon, ils trouveront pas leur place.
Mmh. Sébastien Combre, ce printemps de la diaconie, est-ce que déjà vous pouvez nous donner les dates ? Parce que de mémoire, vous ne les avez pas données.
11, 12, 13 et 14 mai, donc c'est un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, ça sera la grande fête des fraternités qui s'apparente, pour ceux qui le connaissent, au diocèse de Toulouse, à la fête des peuples. Voilà, ça sera un peu le format de la fête des peuples, dimanche. Le samedi, dans différents lieux de Toulouse, il y aura un petit temps en petit groupe d'une dizaine de personnes, hein, ce qu'on a appelé les fraternités. Mmh. Ensuite, il y aura un grand repas là, dans la cour du séminaire, une omelette géante de 3000 œufs. La confrérie de l'omelette de Bessières, pour ceux qui connaissent, qui nous feront cette omelette. Et là, vraiment, tout le monde est invité. Et d'ailleurs, les participants seront amenés à inviter ce jour-là, hein, mmh, les gens qu'ils rencontreront dans la rue. Ensuite, nous enchaînerons sur l'université de la diaconie dans l'après-midi, hein, de 15 à 18 heures à peu près. Un temps où on se met à l'écoute des plus pauvres pour qu'ils nous enseignent. L'université, ça veut dire université, c'est ouvert à tous. Hein. Souvent, aujourd'hui, on pense que l'université, c'est pour les savants, alors que l'université, c'est ouvert à tous. Et pour le coup, on va se mettre à l'école des plus pauvres, de ceux à qui on pense qu'ils n'ont rien à nous apprendre normalement. Ben voilà, on inverse la situation. Après le repas, en petite fraternité. Et le soir, une grande soirée de prières, de louanges, de spectacles. Il y aura plusieurs propositions qui seront faites entre Saint-Jérôme et la cathédrale Sainte-Anne ou Saint-Arcissus.
Jean-Luc Donadieu, en écoutant les témoignages de Sébastien Combre et Sœur Anne, on a le sentiment que les pauvres ont beaucoup à nous apprendre. Est-ce que c'est facile déjà de se dire que quelqu'un qui a moins que soi peut nous apprendre quelque chose?
Oui, sûrement. Mais après, je pense que il faut être conscient de nos propres fragilités, de nos propres vulnérabilités. Mmh. Et se dire que, bon, évidemment, il y en a qui ont des vies cabossées, des vies très difficiles, mais aussi on a nos fragilités. Donc, quelque part, on est sur un même pied d'égalité. Et faire avec ces gens-là, en fait, pour moi, ça me paraît normal. Vous dites tout à l'heure, les mettre à l'honneur, c'est pas tellement les mettre à l'honneur, c'est les considérer, c'est les respecter comme des frères. Et les considérer comme tout un chacun, en fait. Ces personnes-là ont aussi leur sensibilité, leur spiritualité, leur amour propre et leur dignité. Donc voilà, il faut y faire attention. Et c'est l'occasion de le mettre peut-être à l'honneur, comme vous dites, même si le mot...
ne vous plaît pas.
N'est pas très satisfaisant.
Voilà. Moi, je rentre en résonance avec ce que dit Jean-Luc. Je crois que l'idée, c'est pas de créer un événement pour les plus pauvres, mais un événement pour tous, à partir des plus pauvres. C'est-à-dire que c'est ce que disait Sœur Anne tout à l'heure. L'idée, c'est d'inviter tout le monde et d'oublier personne. Et comme quand il y a une pile d'assiettes, hein, si on veut prendre les assiettes en entier, il faut prendre celle du dessous. Parce que si on commence par celle du milieu, ben on va en laisser sur le bord du chemin. Donc le printemps de la diaconie, c'est vraiment pour tous. Hein. Tout le monde est invité et on tentera de n'oublier personne en commençant par les plus petits.
Paulette Schmitt, les pauvres, ils ont beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ?
Les pauvres, ils ont à nous apprendre déjà leur vie, leur vécu, leur expérience. Très dur parce que... voilà. Et le partage. Et aller au devant de l'humain, quoi. Voilà. C'est ça qu'ils ont, les pauvres, à nous apprendre. Je crois que c'est important. Dans leurs yeux, voir l'être humain tel qu'il est. C'est ce que le Seigneur vous voudrait, quoi. Il dit bien, aimez-vous les uns les autres. Voilà.
Pour moi, en fait, c'est quelque part revenir à l'évangile, c'est vivre l'évangile. Jésus a guéri des aveugles, a guéri des estropiés, mais il ne pouvait pas le faire sans eux, sans leur adhésion, sans leur foi. Et là, quelque part, c'est pareil. On ne peut pas faire des choses avec les pauvres si on ne le fait pas véritablement avec les pauvres, si on ne les aime pas vraiment comme des frères, comme des gens parmi tant d'autres.
Vous disiez tout à l'heure que les pauvres ne sont pas considérés à leur juste valeur.
Oui. Bon, déjà, j'ai une difficulté avec le mot pauvre. Oui, je pense qu'on ne les écoute pas assez, qu'on ne les regarde pas assez. Une fois, j'ai eu cette réflexion lors d'une réunion de la pastorale des personnes handicapées nationale. On parlait des personnes handicapées. J'ai dit, il faudrait que les personnes valides arrêtent de se prendre pour des bons samaritains et qu'on se mette un petit peu à l'écoute de ces personnes-là, qu'on les regarde vivre et qu'ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre. À nous apprendre de la vie, à nous apprendre de l'évangile. Il faut se laisser évangéliser par ces personnes-là. Et ils n'ont pas forcément lu l'évangile, eux, mais ils la vivent.
Je pense qu'effectivement, c'est une question de regard. que voilà, on a tendance, on voit, comme disait Sébastien tout à l'heure, on voit leur manque. Donc on se dit, oh là là, c'est des personnes qu'il faut aider. Voilà, on les regarde de notre hauteur. Voilà, c'est moi, je vais de leur donner ce que j'ai. Or, c'est peut-être au contraire eux qui ont quelque chose à nous apprendre et à nous dire. Qu'on ne soupçonne pas et de les regarder comme des frères et des sœurs sur le même pied que nous, quoi, des fils et des filles de Dieu, c'est ça, je pense, qui peut changer aussi notre façon d'être ensemble.
Je crois que les gens pauvres, les droits sont bafoués déjà. Mmh. Et il y a une discrimination constitutionnelle au niveau du pauvre. Mmh. Ils ne sont pas écoutés, au regard des gens, ils ne voient pas les capacités qu'ils ont. On voit toujours le côté négatif du pauvre, mais jamais le côté positif. Et on ne leur donne pas la chance de montrer de quoi qu'ils sont capables, les pauvres. Voilà. Et ces droits-là, il faut que les personnes qui sont dans la politique, quoi, voilà, qu'ils écoutent ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter.
Bah, on répond pas à certains critères, donc voilà, à partir de là.
Et c'est quoi ces critères alors?
Ben, une fois, j'ai eu cette réflexion justement lors d'une rentrée de la diaconie. On était en train, c'était sur le synodal. Il y avait une question qui était: quelles sont les personnes ou les groupes de personnes mises à la marge? Je dis. Dans l'église. Et je trouvais qu'en fait, c'était une église élitiste, au reflet de la société. Si on a une belle maison, un beau travail, une belle vie, tranquille et tout, à partir de là, on sait quelles sont les personnes qui manquent, les personnes qui sont mises à la marge. Donc c'est toujours les mêmes. Hein. Voilà, si on ne crie pas assez fort, ça peut être les personnes handicapées. Ça peut être les personnes qui ont des problèmes financiers ou des problèmes de logement ou qui sont malades. En fait, voilà, ils coûtent cher à la société, déjà. Donc, c'est plus facile de les mettre sur les côtés et de ne pas les écouter parce qu'ils voilà, ils répondent pas à une certaine norme.
C'est facile de ne pas les écouter, les plus pauvres.
Ah bah c'est naturel, en fait.
Ah oui, carrément.
Oui, je crois que c'est la patte humaine, elle est faite comme ça. La société, elle est faite comme ça parce que les hommes sont faits comme ça. C'est-à-dire qu'on avance et puis qu'on avance et puis un peu à la façon bulldozer et puis on regarde pas trop ce qu'il y a autour de nous et puis on se rend compte au bout d'un moment qu'on a quelque chose, qu'on a laissé des gens sur le côté. Par contre, je crois qu'il y a quelque chose qui peut vraiment, vraiment nous aider, c'est de mieux comprendre nos propres vulnérabilités. Mmh. Et je crois que quelque part, se mettre à l'écoute de ceux qui ont une vie cabossée, de ceux à qui on ne donne pas la parole généralement, ça nous permet... En fait, ils n'ont rien d'extraordinaire, dans le sens, ils n'ont pas des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ils ont un ordinaire exacerbé, quoi. Quand ils vivent le pardon... Enfin bon, moi le pardon, ok, mais quand c'est quelqu'un qui a placé mes enfants, quand c'est quelqu'un qui m'a accusé à tort, qui a fait que mon mari il est allé en prison, quand c'est quelqu'un qui a fait une erreur médicale parce qu'il n'avait pas assez de temps à me consacrer, parler de pardon, moi il n'y a rien d'extraordinaire, pardon. Mais là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et en fait, quand il parle du pardon, moi ça me parle de moi-même, à qui je dois pardonner, hein, mes petits pardons que j'ai à donner, ben waouh, eux ils donnent ces grands pardons, peut-être que moi j'ai aussi à donner mes petits pardons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on se rend compte de sa propre vulnérabilité qu'on rentre en résonance avec ce que les plus pauvres ils ont à nous dire, parce que ils nous disent quelque chose de la patte humaine. Mmh. Voilà. Mais dans la foi chrétienne, je crois que Dieu 100% homme, 100% Dieu. Quelque part, plus on devient Dieu, plus on devient homme, plus on devient Dieu. Mmh. Voilà. Et donc, quelque part, ils nous font toucher du doigt quelque chose de la divinité du Christ.
Mmh. Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Plus on se rapproche de Dieu, plus on devient homme.
C'est les deux, effectivement.
Ça fonctionne dans les deux sens.
Je crois que quand on parle de pardon, je crois déjà qu'il faut qu'on commence à se pardonner soi-même. Quand on s'est pardonné soi-même, après, Dieu, grâce à Dieu, parce que c'est lui qui... Il nous donne la force de pardonner à la personne après qui nous a fait du mal. Mais c'est très dur de pardonner des choses très, 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 très lourdes et qui ne nous permet pas d'avancer aussi, qui nous met toujours des bâtons dans les roues. Et je pense qu'avec la foi, à Dieu, tout est permis, quoi. Il n'y a que lui qui peut tout arranger.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur d'être confronté à ses propres vulnérabilités quand on se confronte aux pauvres ? Sœur Anne, quel est votre avis là-dessus ?
Oui, c'est pas impossible, effectivement. Je pense que, oui, certainement, il y a une certaine peur de rencontrer des réalités humaines qui sont très difficiles et qu'on veut parfois ne pas voir, oui, effectivement. Je ne pense pas que ce soit mon cas, mais... mais je pense, oui, qu'effectivement, certains doivent avoir peur d'aller à la rencontre de ces personnes. Et puis, du coup, les ont tendance à les accuser, à dire « mais c'est de leur faute, s'ils sont comme ça
». Il y a la rencontre d'elle-même.
Oui, c'est souvent ce qu'on entend. Oui. C'est intéressant ce que dit Sœur Anne, c'est leur faute s'ils sont comme ça. Oui. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour vivre comme nous.
Voilà, c'est ça.
Terrible d'entendre des choses pareilles.
Oui.
Et plus certaines personnes qui ont eu des difficultés dans leur vie, mais peut-être moins importantes, ou qui ont eu quand même un ressort intérieur qui les a aidés à s'en sortir, seront encore plus difficiles pour ceux qui ne s'en sortent pas, en disant « mais voilà, mais ils n'ont qu'à faire comme moi, voilà, parce que moi, je suis sortie, voilà. »
Non, mais c'est comme quand on passe devant un SDF, on passe devant un SDF et on ne le regarde même pas, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de... Il est invisible à nos yeux. Mais c'est une personne qui a vécu, qui a des richesses. Mais on ne fait pas, le premier pas pour aller voir, pour essayer de comprendre pourquoi... Parce que s'il est arrivé là, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il n'est pas arrivé comme ça, dans la rue, comme ça. Voilà. Et je me dis souvent que les gens, ils ont peur aussi... C'est que de dire si je vais voir un pauvre, du jour au lendemain, moi je vais devenir comme ça aussi. Mais et la misère, c'est pas une maladie, la misère, c'est pas contagieux. Ouais. Voilà. Et ils ont peur surtout aussi de la différence aussi. La différence, elle fait vraiment peur aux gens. Voilà, c'est ça qui bloque, quoi.
Oui, mais après, moi, c'est pas tellement la pauvreté ou le handicap qui m'intéresse. C'est la personne.
Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde pense comme vous ? C'est la question.
Ça, je sais pas. Non. Parce que, voilà, il y a une personne qui va rencontrer quelqu'un en fauteuil roulant. De suite, la première question, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Souvent. C'est la curiosité aussi de la différence.
Oui. Mais voilà, moi, je suis en fauteuil roulant, donc j'ai une autre approche, une autre sensibilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Qu'est-ce que tu sais faire ? Voilà, qu'est-ce que tu as à raconter ? Qu'est-ce que tu me dis de toi ? Après, le reste, voilà, ben moi aussi, j'ai mon fardeau, toi, tu as ton fardeau, ben si on peut se le partager, on se le partagera, mais ça viendra en temps voulu. Mais au premier abord, non. Et souvent, j'ai eu des réflexions de personnes, voilà, qu'est-ce que tu as eu ? Ça va, tu commences à me fatiguer, quoi. Passer à autre chose. Si tu t'arrêtes qu'à ça, tu m'enfonces et ça m'aide pas, quoi. Donc moi j'ai eu un, si je peux en parler, voilà, c'est privé, j'ai eu un accident en 86, je me suis fait renverser, on parlait tout à l'heure du ballon, renversé par une voiture. Mais si j'avais pas eu un certain entourage, si j'avais pas vécu certaines choses et tout, est-ce que j'aurais pardonné à la personne qui m'a renversé ? Je ne sais pas. Mais 37 ans après, je me dis, mais ma vie est belle. Donc voilà, cette personne, bon, j'y pense de temps en temps, mais sans aucune amertume. Parce que quelque part, ben voilà, il m'est arrivé cet accident, mais j'ai vécu des choses tellement belles que je n'y pense plus. Je vis avec mon handicap. Je suis une personne handicapée. et ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc, voilà, mais je pense que les gens prennent plaisir à parler avec moi, que ce soit Sébastien ou des collègues du boulot, ils me parlent normalement, ils ne parlent pas à une personne handicapée, ils parlent à un collègue qui a un handicap, qui a rencontré des difficultés dans ses déplacements et tout, peut-être. Mais voilà, moi si jamais il me chambre, si jamais il me taquine, j'ai du répondant. Voilà, donc même par rapport à ça, par rapport à l'humour, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'humour avec les gens dits plus pauvres ou plus fragiles ou plus cabossés. Au contraire, je pense que ça aide l'humour. Voilà.
Moi je voulais dire aussi que les regards pesants des personnes, c'est très très dur à supporter. Et du coup, les parents qui ont des enfants, et ces enfants-là, ils ressentent le regard pesant sur la famille. Et ça, pour les enfants, c'est horrible, parce que ça ne leur permet pas de se construire eux-mêmes. C'est ça que je n'accepte pas, moi. Parce que les parents sont au RSA, ou les parents ne trouvent pas de travail, du coup, il y a une discrimination sur toute la famille. Et les enfants sont au milieu. Et des enfants, comment voulez-vous qu'ils se construisent avec tout ça?
En plus, on est dans une société qui est de plus en plus, qui mise de plus en plus sur l'apparence. Hein.
Oui.
Donc les plus pauvres sont, année après année, de plus en plus mis de côté. Malheureusement.
Moi, j'aimerais rebondir un peu. Il y avait un slogan de la PPH que j'aime beaucoup. Il y avait un dessin, il y avait une personne qui était en fauteuil roulant, et puis il y avait une autre personne qui était un peu en hauteur, là, et qui lui disait « Comment je peux t'aider ?» Et la personne en fauteuil roulant lui disait « Si tu veux m'aider, dis-moi ce que je peux faire pour toi. » Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est compréhensible de tous ceux qu'on peut définir avec leur creux, comme je disais tout à l'heure, hein, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'argent, ou ils n'ont pas la possibilité de marcher, etc. Je crois que le cœur de la patte humaine, c'est de vouloir donner. Et le slogan de Diakonia 2013, hein, la conclusion finale, c'était « Personne n'est suffisamment pauvre pour n'avoir rien à donner ». Et finalement, le printemps de la diaconie, c'est un peu cette idée-là. C'est de permettre à ceux à qui on ne demande jamais rien, ou en tout cas à qui on demande très peu, de pouvoir donner.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans quelques instants. Sébastien Combes, la chanson, c'est Jésus de Laurent Voulzy. Quelle lecture on doit en faire ?
Oula, merci de la question. Non, c'était une chanson que que Laurent Voulzy a écrite à la demande d'ATD Carmonde, il me semble. Et il parle de Jésus, comment finalement Jésus et le pauvre peuvent être compris de la même façon. Et ça reprend un peu ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, on peut retrouver ça dans Matthieu chapitre 25, la troisième parabole de Matthieu chapitre 25.
De toute façon, on ne peut pas considérer que Jésus était riche.
Eh bien, on écoute de suite Jésus de Laurent Voulzy.
Sans amour certain, comme ça, et le froid sur leurs mains. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu? Ces filles et ces garçons perdus ne sont-ils pas assez précieux? Du haut de tes yeux délicieux, oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis lesquelles, même désir d'amour, les mêmes je t'aime toujours, même navire pourtant, même vent. Oh, oh, oh. Pourtant rien à faire, certain, à côté du chemin, ils vont sans rien, sans espoir le matin, le soir. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu? Ces dames et ces messieurs pieds nus ne sont-ils pas assez gracieux? Trop bas pour tes yeux délicats. Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même vie devant, et tant de destins différents. Pour l'un facile, pour l'autre un chemin difficile. Pour l'un facile, pour l'autre un chemin difficile.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jean-Luc Donadieu, chargé de mission de la pastorale des personnes handicapées, Paulette Schmitt, militante à TD Quart-Monde, Sébastien Combe, coordinateur du printemps de la diaconie et délégué épiscopal pour la diaconie au sein du diocèse de Toulouse, et pour être totalement complet, sœur Anne, sœur de la Bonne Nouvelle et animatrice Place et Parole des Pauvres, pour parler de ce printemps de la diaconie et de la place que on peut et on doit laisser aux pauvres dans l'organisation d'un tel événement. Pour recevoir la parole des pauvres, il faut que chacun, on puisse éduquer aussi notre esprit et notre regard aux plus pauvres. Comment on fait pour avoir cette humilité nécessaire pour recevoir la parole des plus pauvres?
Là.
Ah, la question est... On redémarre bien.
Oui, mais enfin, je crois qu'il faut se mettre face à ses propres... Non, en fait, je crois que la priorité, c'est d'y croire. C'est-à-dire que si on ne croit pas que celui qui est en face de moi, il a quelque chose à me dire, c'est foutu d'avance. Donc, la première des choses, c'est de voir en face de soi un frère qui a quelque chose d'essentiel à me révéler. Voilà, ça c'est la première attitude, c'est l'attitude fondamentale. Après, on peut mettre en place des pédagogies, tout ce que l'on veut pour être à l'écoute. Et puis après, je crois qu'une deuxième clé pour apprendre des plus pauvres... Il faut écouter des plus pauvres. Et pour écouter, il faut se taire. Tais-toi, écoute, apprends. C'est ce que disait déjà le père Joseph Brzezinski à ses volontaires. Donc, je crois qu'on ne peut pas apprendre si on n'écoute pas et on ne peut pas écouter si on ne se tait pas. Voilà. Y croire, se taire, écouter, apprendre.
Sœur Anne, vous partagez l'avis de Sébastien Combre?
Complètement, absolument. Tout à fait. Et c'est vrai que, du coup, on le met un petit peu en place à travers donc ce groupe Place et Paroles des Pauvres, qui a été au tout départ justement le lieu où la parole des pauvres a été d'abord écoutée, entendue, et où on a appris d'eux, pour ce fameux événement de Diaconia 2013. Mmh. Et c'est pendant 2 ou 3 ans avant, il y a eu tout un groupe au niveau national qui s'est rassemblé et qui après a pu vraiment faire vivre cet événement à ces 12 000 personnes ou quelque chose comme ça qui était à Lourdes. Et donc là, ce groupe Place et Paroles des Pauvres est constitué de personnes qui viennent de différents lieux, parce que donc c'est provincial pour cette année. Alors on a déjà eu depuis les 10 ans, depuis Diaconia 2013, il y avait un groupe Place et Paroles des Pauvres toulousains qui rassemblait des personnes venant de différentes associations qui travaillent avec les pauvres en les aidant à rencontrer la parole de Dieu, à vivre avec la parole de Dieu et leur foi, vivre leur foi dans l'Église. Et là, donc, on rassemble des personnes aussi de différentes associations venant de différents diocèses, donc des 8 diocèses. Enfin, pour l'instant, ils ne sont pas encore les 8 diocèses, mais voilà. Et on essaie, c'est aussi ce qu'on croit, c'est qu'ils ont une pensée qui est aussi à construire ensemble. C'est pas seulement une personne qui va dire quelque chose et puis une autre personne, une autre. C'est pas la parole d'une personne qui a de l'importance. C'est aussi ce qu'on construit ensemble, ce qu'on va ensemble découvrir, qu'on porte ensemble. Voilà. Et donc, quand on fait après paraître des textes de ce qu'on aura dit, ça sera la parole du groupe. Ça ne va pas être la parole d'un tel, un tel, un tel, même si on se reconnaît au moment où on travaille les textes, ils reconnaissent très bien que c'est un tel qui l'a dit. Mais en tout cas, quand c'est répercuté, c'est notre parole à nous, les pauvres, qu'on vous donne. Voilà, notre pensée, notre foi, ce que nous avons à vous dire, notre parole.
Je crois que c'est important de comprendre que on rassemble des personnes qui ont une vie cabossée, qui ont vécu ou qui vivent encore la galère, et qu'on leur demande de réfléchir ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, parce que faire témoigner des gens qui vivent la galère, c'est quelque chose qui se fait couramment. Hein. Ils témoignent, ils nous parlent de notre vie, et puis après, nous, on interprète, on dit ouais, comment ça me touche et comment je change ma façon de faire et de fonctionner. Dans la pédagogie qu'on a mis en place pour préparer le printemps de la diaconie, c'est pas tout à fait comme ça qu'on imagine les choses. C'est qu'ensemble, ils travaillent une pensée, un sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'université de la diaconie qui aura lieu le samedi là. Ils réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'une université, qu'est-ce que ça veut dire université pour eux. Et puis, alors je dévoile un petit peu ce qu'ils vont travailler demain, mais qu'est-ce que les plus pauvres ont à apprendre? À enseigner plutôt. Qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner? Et à partir de ce qu'ils diront, ben on organisera cette université, on réorientera l'université en fonction de ce qu'ils ont à nous dire. Pareil pour le temps missionnaire où tous les participants pourront aller dans les rues parler de cette omelette là pour inviter et parler de Jésus, parler de la solidarité, parler de la fraternité, parler de l'entente entre riches et pauvres, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ben, ils ont réfléchi sur ce temps, qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire, et puis ils ont réfléchi à aujourd'hui notre monde, comment il se comporte face à l'argent, face à la santé, etc. Et qu'est-ce que nous, on a envie de leur dire. Voilà. Et tout ça va être recensé dans un petit journal qu'ils pourront distribuer aux passants le samedi après-midi. Voilà comment on peut mettre en place les choses. L'idée, c'est de croire qu'ensemble, ils ont une pensée commune et qu'on fait émerger cette pensée. On l'a fait, voilà. C'est comme ça qu'on a pensé un peu les choses. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais en tout cas, c'est comme ça que le printemps de la diaconie s'est organisé.
Sébastien Combe, gardez la parole. Tout ce qu'on vient d'évoquer, ça vous inspire un texte biblique?
Ah, merci de me poser la question. Oui, alors effectivement, en préparant l'émission, je vous ai parlé d'un texte qui J'ai, un jour, lors d'un partage, c'était sur les invités au festin. Donc, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui invite à un banquet. Voilà. Donc, il y a un homme, c'est un roi, un prince en tout cas, qui invite à un grand banquet. Et puis là, il y a les riches, hein, qui refusent de venir. Les riches qui étaient invités, l'un, il a... Chaque fois, ils ont des bons prétextes. Hein. Il y en a un qui vient d'acheter des bœufs, il faut qu'il les essaye. L'autre qui doit se marier, l'autre qui doit enterrer son père, je crois. Enfin, voilà. Chacun a des bons prétextes. Alors, le roi, il n'est pas content. Et donc, il va dans les... Il demande à ses serviteurs d'aller sur les chemins, dans les village, dans les campagnes, et d'inviter les pauvres, les extropiés, les boiteux. Et puis, ils viennent. Et alors, un jour, pendant un partage, hein, il y avait des personnes qui étaient là, je demande aux personnes qui étaient là, mais alors, à qui vous identifiez dans ce texte, qui vous ressemble? Moi, je m'attendais qu'ils disent bah, les pauvres, hein, parce qu'ils ne sont jamais invités. Et puis, alors, ils me disent non, c'est pas les pauvres. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que ils ont conscience que parfois ils ne répondent pas à l'appel de Dieu, donc ça sera ceux qui ont refusé. Non, ils me disent, ceux qui étaient là me disent, mais non, nous c'est le roi, parce que quand on invite, personne ne vient. Et moi, ça m'a vraiment touché, cette parole, parce que je me suis dit que finalement c'était vrai, et que c'était souvent ceux qui ont, hein, argent, savoir, pouvoir, qui peuvent inviter. Et ceux qui n'ont pas, ben, ils ne peuvent pas inviter. Enfin, et puis quand ils invitent, personne ne vient. Et nous, on aimerait vraiment que pendant ce printemps de la diaconie, les choses soient à l'inverse. Et que là, ceux qui sont invitants, ceux qui préparent l'événement en amont, c'est ce groupe là, ces paroles des pauvres, et c'est à leur invitation. Après, donc les évêques invitent, proposent, lancent le mouvement, mais après, ce sont les pauvres... du groupe Place et Parole des Pauvres Provinciales qui invite. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu que tous les auditeurs s'inscrivent. Voilà, et participent.
Pour s'inscrire, justement.
Alors, pour s'inscrire, vous allez sur le site printempsdeladiaconietoutattaché.fr. C'est très simple, et puis c'est « Je m'inscris ». Il y a la possibilité aussi de faire des dons, parce que on a besoin... tout le monde ne pourra pas participer à la hauteur du coût de l'événement, donc on peut faire des dons. Et puis pour tous les Toulousains, il y a un petit onglet qui s'appelle « Toulousains accueillants », et on peut inviter 10 personnes le samedi soir pour un repas. Voilà, donc on sera répartis par groupe de 10 et invités chez l'habitant. Donc voilà, si vous habitez Toulouse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce site. Là, Toulousain accueillant, j'accueille pour une fraternité pour un repas. Ou une ou deux personnes pour la nuit aussi, pour les deux nuits, du vendredi au samedi. Tout ça nous permet de réduire les coûts pour être invitant pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, leprintempsdeladiaconie.fr.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, on revient dans quelques instants, on écoute « Regardez l'humilité de Dieu ».
Regardez l'humilité de Dieu.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7. Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et pour cette troisième et dernière partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Combre, coordinateur provincial du Printemps de la Diaconie, qui nous présente le programme précis de cet événement. Je rappelle les dates, c'est le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 mai à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous détailler le programme de cet événement ?
Alors, il y a plusieurs événements dans l'événement. Le Printemps de la Diaconie, c'est un événement qui commence le vendredi à 20h15. À la cathédrale de Toulouse. Il faut venir avant pour récupérer tout ce qui est le matériel, c'est-à-dire le badge, etc. Et quand on s'inscrit au Printemps de la Diaconie, on va participer à différents temps, dont des temps qui seront ouverts à tous. Alors, pour ceux qui s'inscrivent et qui participent à tout, on s'inscrit sur le site du Printemps de la Diaconie, et puis on participe du vendredi soir au dimanche. Mais il y a des temps qui sont ouverts à tous. L'omelette géante, le samedi, dans la cour du séminaire, entre 11h et 15h. Donc une grande omelette où même nos amis musulmans ou juifs peuvent participer puisque il n'y a pas, enfin voilà, c'est kasher et halal quoi, puisque ce sont que des œufs. Après, dans l'après-midi à 15h, il y a ce qu'on appellera l'université de la diaconie. Ce sont soit des tables rondes, soit des petits ateliers où pour les personnes qui ont expérimenté une situation de diaconie, une solidarité, ça peut être une maraude, un repas partagé, ça peut être... Il y a un groupe pour le parcours Bartimée, par exemple, pour les divorcés. Voilà, donc différentes expériences de diaconie où on pourra interroger les acteurs, leur demander un peu comment ça marche, comment ça marche pas. L'idée, c'est vraiment de repartir chez soi avec des billes pour faire pas la même chose, mais s'inspirer de ça pour faire vivre la diaconie dans notre diocèse. Ensuite, le repas, c'est pour ceux qui se sont inscrits, le repas du samedi après-midi, là, ça se fera en petits groupes d'une dizaine chez les habitants. Il y a beaucoup d'habitants qui ont répondu hein, pour accueillir un petit groupe de 10 pour le repas. Et le soir, il y a ce qu'on appelle la nuit de la diaconie à la cathédrale à 20h30. Il y aura des spectacles, il y aura des concerts, louanges, adorations, festifs. Il y aura la possibilité de visiter de Toulouse avec
en
des guides.
Nuit.
Pardon ?
En pleine nuit.
En pleine nuit, voilà, c'est ça. Toulouse by night. On espère qu'il fera beau. Et puis un petit lieu convivial qu'on a appelé un bar à JC pour jus composé. Le dimanche, c'est au Hall 8. C'est l'ancien hall des expositions, pour ceux qui connaissent. Et là, c'est la grande fête des fraternités. Alors, pour les amis toulousains et qui connaissent, c'est la fête des peuples. En fait, voilà, la fête des peuples a rejoint le Printemps de la Diaconie cette année. Et donc, il y aura toutes les communautés venues d'ailleurs, mais aussi tous les participants du Printemps de la Diaconie. L'idée, c'est de faire la fête ensemble et de célébrer, voilà, ce que c'est une messe. Tout au long de cette programmation, il y aura tout le samedi ce qu'on appelle la chapelle des veilleurs, c'est-à-dire un groupe des personnes qui intercéderont pour toutes les intentions des uns et des autres. Donc il y aura des corbeilles dans les différents lieux pour déposer nos intentions. On pourra aussi les déposer directement dans la chapelle des veilleurs du samedi de 9h jusqu'à la soirée. Et c'est à la cathédrale, dans une petite chapelle qui est sur la droite quand on prend le portail principal, qui s'appelle Notre-Dame de Piété. Ou de Pitié, Notre-Dame de Pitié. Voilà, et on peut, sur le site du Printemps de la Diaconie, on peut s'inscrire comme intercesseur pour pouvoir participer à cette grande chaîne de prières, d'adoration, voilà, qui sera animée par une personne qui s'appelle Caroline.
Vous avez besoin de bénévoles pour assurer toute la partie logistique de ce Printemps de la Diaconie ?
Ah oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin que les gens s'inscrivent, puisque en fait... Tous les participants seront bénévoles à un moment ou à un autre. Voilà, chaque participant aura une mission. Soit ça sera pour faire la quête pendant la messe, soit ça sera pour faire l'accueil, distribuer l'apéro. Voilà, chaque personne aura une mission. Donc on est tous bénévoles, on se sert mutuellement les uns les autres. mais il y a quand même besoin que des personnes soient au service sur l'ensemble du printemps de la diaconie, sur des postes un peu support comme l'intendance, des postes plus de gestion d'équipe. Et on cherche particulièrement quelqu'un qui pourrait scripter pour l'accessibilité des personnes sourdes, pour notamment l'homélie. On souhaite que quelqu'un puisse taper l'homélie rapidement pour qu'on puisse la vidéo projeter pour nos amis sourds. Voilà, on cherche des bénévoles. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Printemps de la Diaconie, devenir bénévole, tout simplement. printempsdediaconie.com.
Merci pour le site internet. Le pape François nous l'a rappelé avec sa lettre, l'encyclique Laudato Si. C'est important aussi de s'inscrire dans une dimension de développement durable pour
oui,
cet événement.
Tout à fait, parce que en fait, c'est aussi un souci de cohérence. On peut pas et à la fois prôner la fraternité, la solidarité et encourager des pratiques qui sont contraires. Voilà. Et le pape, il le dit très bien, hein, quand on s'attaque aux plus pauvres, et particulièrement la plus pauvre d'entre nous, la terre, c'est on s'attaque à tous. Mmh. Donc voilà, il y a une démarche qu'on veut le plus éco-responsable, en sachant qu'on n'y arrive pas totalement encore aujourd'hui, puisque l'écologie, c'est une question de dynamique. Et c'est en fait la transformation, elle est progressive. Voilà, on a essayé de pas imprimer des grandes bâches plastiques. Nous avons on aura des drapeaux peints à la main, par exemple, pour marquer les lieux, nos différents lieux. C'est des amis de l'Arche en Pays Toulousain qui nous peindront les drapeaux d'ailleurs. Mmh. Nous avons décidé de faire travailler pour l'alimentation des petits groupes solidaires. L'économie solidaire. Voilà, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu pour être le plus éco-responsable. Pas pour faire bien parce que c'est dans l'air du temps, mais parce que c'est un souci de cohérence entre ce que l'on veut vivre et ce que l'on vit réellement.
Mmh. Sébastien Combre, quel est l'objectif de ce printemps de la diaconie?
Alors, c'est toujours compliqué quand on parle d'objectifs, puisque après on fait des promesses qu'on peut pas forcément forcément tenir. Mais je crois, moi franchement, je pense que la diaconie, c'est vraiment une question, c'est pas une question de théorie. On peut en parler autant qu'on veut, on comprend avec notre intelligence, mais quand on le vit, on le comprend avec tout notre corps, notre cœur, nos sentiments, et ça change vraiment les choses. Alors l'enjeu, c'est la conversion des gens qui vont venir. Voilà, alors il y en a certains, ils vont venir parce qu'ils ont envie d'être convertis, d'autres qui diront, oulala, moi j'ai pas envie d'être converti, je viendrai pas. Mais il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là, d'une conversion intérieure de chaque participant. Et après, moi je me dis que ça fait boule de neige. C'est-à-dire que quand les gens ils ont expérimenté quelque chose et qu'ils se sont dit oui, là il y a un visage de diaconie qui m'intéresse, qui est bon pour notre église, eh bien ces expériences de diaconie vont essaimer un peu partout, un peu partout dans le diocèse. Et je crois qu'il y a aussi un autre enjeu qui est vraiment un enjeu d'évangélisation. Moi, je suis persuadé que le renouveau de l'Église viendra par les plus pauvres, et parce que c'est le signe que l'Église, elle est pour tous. Si on en oublie un ou deux, elle n'est pas pour tous. Donc, les plus pauvres sont le signe que l'Église, elle est vraiment pour tous, et je crois qu'il y a un vrai enjeu d'évangélisation. Et d'ailleurs, pendant le printemps de la diaconie, les participants seront amenés à aller dans la rue pour parler de ce que l'on dit. Il y aura une petite gazette à distribuer et pour interpeller les gens et les inviter à la fête des fraternités, à l'université de la diaconie, à l'omelette ou à la nuit de la diaconie et à la chapelle des veilleurs.
C'est ça aussi l'objectif, l'un des fruits attendus, c'est que chaque chrétien qui vient d'un diocèse de la région reparte avec des exemples concrets d'agir pour la diaconie dans son diocèse.
Oui, ça c'est un des objectifs, c'est-à-dire que ça parle à notre intelligence, si vous voulez, avoir une méthodologie. Effectivement, il y aura ça à l'université de la diaconie, mais je crois que ça va au-delà. C'est dans l'ordre de l'expérience, d'une expérience vécue, d'une rencontre vécue qui transforme et qui donne un élan nouveau. Voilà, je crois que Diaconia 2013, il y a 10 ans, a vraiment envoyé des gens en mission et des gens qui se sont sentis, qui ont œuvré et qui ont fait des belles choses dans chacun de nos diocèses. Et ça vaut le coup d'en faire mémoire et de se dire, allez, on repart pour 10 ans.
Donc Sébastien Combre, pour bien récapituler, 12, 13 et 14 mai prochain, le printemps de la diaconie, ça a lieu dans plusieurs lieux de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous lister les lieux pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre ?
Vendredi soir, cathédrale à 20h15. Sainte-Marie-de-Nevers, le lycée Sainte-Marie-de-Nevers, le samedi à 9h. Pour les personnes qui se sont inscrites. Après, il y aura l'omelette qui est ouverte à tous à la cour du séminaire, rue des Feuillants, je crois. Ensuite, il y aura l'université de la diaconie Sainte-Marie de Nevers à 15h. La nuit de la diaconie à 20h15, qui est sur le site cathédrale, c'est-à-dire que les visites by night partiront de la cathédrale. Il y aura la chapelle Sainte-Anne où il y aura des spectacles, et la cathédrale, la louange, adoration, réconciliation, il y aura la possibilité de se confesser ou de se faire écouter par des écoutants. Et le dimanche, on terminera par la fête des fraternités au hall 8, l'ancien hall des expositions. Voilà. De toute manière, tous les lieux sont sur le site de la diaconie, l'onglet les lieux. Et si on l'utilise par un smartphone, ça active même le GPS et ça nous amène à l'endroit. C'est extraordinaire,
c'est
la technologie.
Formidable. Et on rappelle bien que vous avez besoin de bénévoles et notamment un transcripteur pour que ce printemps de la diaconie soit accessible à tous, même à nos amis et nos frères handicapés. Merci à Sébastien Combre et à l'ensemble de mes invités pour cette émission Vivante Église un petit peu spéciale. C'est la fin de celle-ci. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.